Voici à votre gauche le fort de l'Ouest, édifié à partir de 1850, dans le cadre de la défense de La Passe. Autour d'une cour circulaire, le fort est construit avec deux étages de casemate, surmonté d'une batterie à ciel ouvert, avec parapet en terre enveloppé d'une chemise en briques. L'étage inférieur était affecté au logement de la garnison, environ 150 hommes, ainsi qu'au magasin de poudre. Vers 1890, il est arasé et bétonné pour être renforcé. Le fort est doté d'un port et d'un phare à secteur qui sert à présent de balise bâbord d'entrée et de sortie du port dans le but de diriger les bateaux. Alors, il est alimenté par des éoliennes et des panneaux solaires. Les derniers gardiens ont quitté le phare au début des années 1980. Alors, nous longeons à présent la grande digue, longue de 3712 mètres à sa base. Et je vais profiter de ce moment pour vous parler de sa construction. Alors le port de Cherbourg n'aurait pas pu se développer de la sorte s'il n'y avait pas eu l'édification de la grande digue et de ses forts. Cet ensemble maritime représente la plus grande rade artificielle du monde avec ses 1500 hectares de superficie et représente l'un des plus grands chantiers entrepris jusqu'à ce jour. Il faut savoir que le volume de pierre utilisé correspond approximativement à celui des pyramides de Gizeh en Égypte, soit 6 millions de mètres cubes de roches. Alors Cherbourg, on avait pour se protéger au XVIIe siècle un château entouré de fortifications Vauban. Maintes fois pris d'assaut par les Anglais, il fut rénové à partir de 1687 et pour de basses rivalités, l'ordre est donné de raser les fortifications fin 1688. Alors décision qui fit grand défaut à l'amiral de Tourville lors de la bataille de la Hougue en 1692. Puisqu'il ne put protéger une partie de ses navires. Il tenta de s'abriter en baie de Cherbourg, mais ses navires furent brûlés, dont le vaisseau amiral, le Soleil Royal, qui finit sur la pointe Diomée. Des vestiges ont été retrouvés dans l'enceinte de l'arsenal. Alors plus tard, Louis XVI, jugeant que cette ville peut devenir une place stratégique dans la lutte incessante franco-anglaise, décide la construction d'un port militaire protégé. En 1776, il réunit une commission sous l'égide de Monsieur de Suffren, avec le gouverneur du Mourier et Monsieur de la Bretonnière. Différents projets y sont présentés. Alors l'ingénieur Decaux propose l'édification d'une petite digue entre l'île Pelée et le rocher Diomée, avec une unique passe centrale. Le vicomte de la Bretonnière propose la construction d'une grande digue de 4 km de long entre l'île Pelée et Querqueville. En s'abordant d'anciens navires de guerre et en les recouvrant d'un enrochement à pierre perdue. Et enfin, Louis-Alexandre de Cessart opte également pour la grande digue, mais en se basant sur un môle de 90 cônes de bois, de 20 mètres de haut et de 45 mètres de diamètre, rempli de pierres et relié par des chaînes. Alors, c'est ce dernier projet qui est retenu. Alors, ceci créant des tensions entre les différents dirigeants du chantier. Et en dépit d'adoption officielle de ce projet, il sera engagé la construction de deux forts sur le rocher du Homais et sur l'île Pelée, afin de conserver l'idée de l'édification d'une plus petite digue plus proche du rivage. Alors l'élaboration de la grande digue démarre en 1781 par la construction d'un prototype au Havre, et un premier cône y est construit en vue de lui faire subir les premiers essais en mer. Des épreuves de remorquage se font un jour de grande marée et se concluent par un succès. Le premier cône peut alors être acheminé vers Cherbourg. Monsieur de Cessart est nommé directeur des travaux et Monsieur de la Bretonnière se retrouve chargé du remorquage et de l'immersion des cônes. Alors le chantier s'organise peu à peu. La construction de cônes se fait sur la plage de Chantraine, à l'emplacement actuel du port de Plaisance. Le premier cône est immergé avec difficulté, mais réussit en juin 1784 à 1200 mètres à l'ouest de l'île Pelée. Puis il est rempli de pierres amenées par des chasse-marées provenant du port du Becquet. Donc c'était le port à proximité des carrières d'extraction. Alors la pose des cônes se poursuit non sans difficulté. Certains cônes se retrouvent trop espacés et menacent d'altérer l'efficacité du projet. D'autres ne résistent pas aux tempêtes successives et se disloquent avant même d'être remplis. Le 22 juin 1786, au cours de son seul voyage en province, le roi Louis XVI se déplace en personne pour voir l'avancement des travaux à l'occasion de l'immersion du 9e cône. Alors il en profite pour visiter les alentours et prend alors la décision de l'édification du fort de Carqueville. Au total, seuls 18 cônes sur les 90 prévus seront immergés en 1788, dont plusieurs ne résisteront pas aux intempéries. Le projet se traduit par un échec, et l'arrivée de la Révolution française freine davantage les travaux, et le chantier se trouve arrêté en 1792. Alors c'est sous le consulat, en 1802, que Napoléon Bonaparte décide de reprendre la construction de la digue, selon la méthode de la bretonnière, soit à pierre perdue, avec en plus l'aménagement de la partie centrale pour recevoir des canons. Un an plus tard, il charge l'ingénieur Cachin de l'élaboration d'un port militaire, incluant un arsenal. Ce chantier se terminera en 1813. Et enfin, Cherbourg se retrouve à l'abri des attaques anglaises. Alors les travaux de la digue se trouvent à nouveau interrompus de 1813 à 1823, suite à la chute de l'Empire. Ils reprennent sous Charles X. La digue est alors complétée par deux fortins ajoutés à chacune de ses extrémités, les musoirs Est et Ouest. Elle est finalement achevée sous le Second Empire en 1853. Alors nous longeons à présent la ferme aquacole qui élève dans ses différentes cages quelques 300 000 saumons. Vous pouvez les trouver sous le label Saumon de France, qui est la seule à produire en mer. Dans le respect du bien-être animal et de l'environnement, ils sont exclusivement nourris avec des aliments à base de poissons qui sont stockés dans ce drôle de bateau. Alors, ils sont soumis à une densité de 12 kg au mètre cube, ce qui est peu. L'avantage de cette ferme, c'est qu'elle est protégée des tempêtes par la digue. Alors, autre bénéfice, cette grande rade subit de forts courants, ce qui oblige les saumons à nager continuellement et leur permet de se muscler et de générer une chair de très bonne qualité. L'usine de transformation se trouve à proximité, ce qui permet le conditionnement sans temps de transport. Et vous pouvez le trouver sur le site du saumonier de Cherbourg avec sa boutique de vente directe.